Chapitre 12. Sacrifice. On emploie généralement pour désigner ce pays l'expression « royaume des montagnes », mais ses habitants et ceux qui le gouvernent ne se conforment pas du tout à la définition d'un authentique royaume, selon la conception qu'on en a dans les six duchés. On imagine ordinairement un royaume comme un territoire unique, occupé par un peuple unique, sous l'autorité d'un monarque. Les montagnes ne se plient à aucun de ces trois caractères. Ce n'est pas un peuple monolithique qui les habite, mais une mosaïque de chasseurs errants, de bergers nomades, de marchands ambulants, de voyageurs qui suivent chacun des trajets définis et de familles qui tirent une maigre subsistance de petites fermes dispersées dans le pays. On comprend aisément que tous ces groupes aient peu d'intérêts communs. Il est donc naturel que le « souverain » de ces gens ne soit pas un roi au sens traditionnel du terme. La lignée est née d'un médiateur, un homme sage qui avait démontré un grand talent pour arbitrer les différends, inévitables entre des groupes aussi disparates. Il existe foison de légendes sur les rois Kurda, et parmi elles, nombre de récits sur des souverains prêts à offrir leur propre personne à titre de rançon, à risquer non seulement leur fortune, mais aussi leur vie pour leur peuple. C'est de cette tradition que vient le titre honorifique donné à leurs dirigeants par les montagnards. Ils appellent leur monarque, non pas roi ou reine, mais oblat. Du royaume des montagnes, de chevalerie loinvoyant. Le passage se referma, fluctuant comme de la boue, et la masse des acolytes de l'Audevin s'interposa entre la lumière et moi. Je parcourus du regard le cercle de mes ennemis qui me dévisageaient. L'éclat du jour derrière eux m'empêchait de distinguer clairement leurs traits dans la pénombre de la grotte, mais comme ma vision s'adaptait à la semi-obscurité, je pus étudier leurs visages. Ils avaient pour la plupart une vingtaine d'années, et quatre étaient des femmes. Aucun ne paraissait plus âgé que l'Audevin. Pas un seul doyen du lignage. La cause défendue par les fidèles du prince Pi ne comptait que des jeunes. Quatre des hommes avaient les mêmes dents, larges et carrées, sans doute des frères ou au moins des cousins. Certains dans la foule affichaient une expression presque neutre, mais personne ne paraissait bien disposé à mon égard, et les seuls sourires que j'apercevais exprimaient une jubilation mauvaise. Je rouvris mon col, mais si l'amulette de Gina eut un effet, il me resta imperceptible. Certains de ces gens avaient-ils un lien de parenté avec l'homme que j'avais tué sur la piste? Il y avait des animaux au milieu des pies, mais moins que je ne m'y serais attendu. Je comptais deux chiens de chasse, un marguet, ainsi qu'un corbeau posé sur l'épaule d'un homme. Je gardais le silence en attendant la suite, sans avoir la moindre idée de ce qu'elle serait. La marguette du prince, couchée devant nous, n'avait pas bougé. À plusieurs reprises, je l'avais vu détourner le regard, mais ses yeux étaient toujours revenus sur le garçon, avec une fixité anormale qui leur donnait une expression presque humaine. L'Audevin s'était rendu à l'entrée de la grotte jouer sa comédie des adieux à Cire Dorée, et il s'en retournait à présent vers nous avec un sourire empreint d'assurance. « Je crois que votre poignard n'est plus utile, » fit-il d'un ton uni. J'ai rempli ma part du marché. Ce ne serait peut-être pas très avisé, répondis-je, et j'inventai un mensonge au vol. Le garçon a tenté de m'échapper il y a une minute, et sans mon arme sur la gorge, il y serait arrivé. Mieux vaut que je le tienne jusqu'à ce qu'elle... Je cherchais mes mots, mais j'étais en panne d'idées. Jusqu'à ce qu'elle soit complètement entrée. Je vis un ou deux visages faire une grimace gênée. Aussi, ajoutai-je, jusqu'à ce que Péladine l'ait complètement dépossédé de son corps. Une femme avala péniblement sa salive. L'Audevin ne parut pas se rendre compte du malaise de certains de ses comparses, et ses manières restèrent parfaitement courtoises. « Je ne partage pas ce point de vue, et il me chagrine de vous voir menacer une gorge qui sera bientôt celle de ma propre chair. » « Votre poignard, monsieur. Vous êtes parmi les vôtres ici. Ne l'oubliez pas. Vous n'avez rien à craindre. » et il tendit la main. L'expérience m'a enseigné que les gens qui me ressemblent le plus sont ceux qui présentent le plus grand danger pour moi. Aussi, je laissai un sourire apparaître lentement sur mes lèvres, puis écartai ma lame de la gorge du prince, et au lieu de remettre l'arme à l'eau de vin, je la rengainai. Je gardai une main sur l'épaule de Devoir pour le retenir près de moi. Nous nous trouvions au fond de la grotte, là où elle se rétrécissait, et je pouvais le placer rapidement derrière moi, le cas échéant. Toutefois, je doutais que le besoin s'en fît sentir, car je comptais le tuer moi-même. 20 ans plus tôt, avec force exercice, Imbre m'avait formé à toutes les manières d'assassiner un homme à main nue. J'avais appris les méthodes discrètes, les rapides et les lentes, et j'espérais aujourd'hui avoir conservé ma vivacité et ma précision d'autrefois. La tactique la plus efficace consisterait à attendre que la femme se soit complètement emparée du garçon, puis de tuer Devoir si vite qu'elle mourrait avec lui sans avoir le temps de retourner se réfugier dans sa marguette. Aurais-je celui de me suicider avant que l'épine me maîtrise? J'en doutais. Mieux valait ne pas me pesantir sur la question. Le prince prit soudain la parole.
« Je ne me débattrai pas. »
D'un haussement d'épaule, il écarta ma main, puis il se redressa autant que le permettait le plafond bas.
« J'ai été insensé, et c'est peut-être ainsi que je dois en payer le prix. Pourtant, je croyais. »
Il parcourait du regard les visages qui l'entouraient en s'arrêtant sur certains. Parmi ceux-là, quelques-uns exprimèrent une vague indécision.
« Je croyais que vous me considériez comme l'un des vôtres. Votre accueil, votre soutien paraissait sincère. Et mon lien avec la Mariette, je n'avais jamais rien senti de semblable. Puis quand la femme s'est présentée à mon esprit et m'a dit qu'elle m'aimait,
il hésita sur ces mots, puis fit un effort sur lui-même.
J'ai cru avoir affaire à une réalité tangible, une réalité dont la valeur dépassait celle de ma couronne, de ma famille, ou même de mon devoir envers mon peuple. Fou que j'étais. Elle s'appelait donc Péladine. Elle ne m'a jamais révélé son nom. Et je n'ai jamais vu son visage, naturellement. Enfin,
il croisa les jambes et s'assit en tailleur.
Viens, chatte. Toi, au moins. Tu m'aimais pour moi-même. Je sais que cette situation ne te plaît pas plus qu'à moi. Finissons-en donc rapidement.
Il leva la tête vers moi et m'adressa un regard empreint d'une signification que je ne sus déchiffrer, mais qui me glaça jusqu'aux os.
Ne me méprisez pas trop. Je ne suis pas complètement stupide. La Mariette m'aime et je l'aime aussi. Cela, du moins, est toujours resté vrai.
Je savais que, quand la créature viendrait se nicher contre lui, le contact physique renforcerait leur lien, et la femme s'introduirait en lui sans difficulté. Ses yeux sombres ne quittaient pas les miens, et c'est Kétriken que je vis soudain dans ses traits, dans sa calme acceptation de son sort. Je suis alors que ses paroles m'étaient destinées.
Si mon sacrifice pouvait libérer ma Mariette de la femme, je me réjouirais. Mais je vais seulement partager le piège dans lequel elle est enfermée. Péladine s'est liée à nous deux uniquement pour avoir l'usage de nos corps. Jamais elle ne s'est intéressée à ce que renfermaient nos cœurs, sauf pour s'en servir contre nous.
Devoir loin-voyant reporta son regard vers la Mariette. Puis, il ferma les yeux et se pencha vers l'animal qui s'approchait de lui. Il régnait dans la grotte un silence absolu que ne rompait même pas le bruit d'une respiration. Tous observaient la scène, tous attendaient le dénouement. Plusieurs visages étaient pâles et crispés. Un jeune homme se détourna avec un frisson d'horreur tandis que la créature s'arrêtait devant le prince. Elle pressa son front rayé contre celui du garçon, marquant sa propriété à la manière des félins. Comme elle se frottait contre lui, ses yeux verts croisèrent les miens.
« Tue-moi, vite !»
Le contact mental, clair et net, était tellement inattendu que je restais pétrifié, incapable de réagir.
« Que m'avait dit Gina ? que tous les félins savent parler, mais qu'ils ne le font qu'au moment et avec la personne de leur choix. L'esprit qui avait touché le mien était celui d'un félin, non celui d'une humaine. Sans bouger, je regardais fixement la petite Marguette. Elle ouvrit grand la gueule, mais sans émettre de son, comme si elle avait été traversée par un élancement si violent qu'il en était inexprimable. Puis elle secoua la tête. « Stupide frère de chien, tu es en train de laisser passer notre chance, tue-moi vite !» Ces paroles me frappèrent avec la force d'un coup de poing. « Non !» cria Devoir, et je me rendis alors compte qu'il n'avait pas entendu la première exhortation de la Marguette. Il tenta de la retenir, mais elle bondit sur son épaule et de là s'élança sur moi, sans se soucier des lacérations qu'elle lui infligeait au passage. Je la vis venir vers moi, toute griffe dehors, la gueule ouverte. Qu'y a-t-il de plus blanc que les crocs d'un fauve sur le fond rouge de sa gueule? Je voulus tirer mon poignard, mais elle fut plus rapide que moi. Elle atterrit sur ma poitrine et ses griffes de devant se plantèrent fermement dans ma chair, tandis que ses pattes postérieures labouraient mon ventre. Elle tourna la tête et je ne vis plus que des dents blanches qui s'approchaient de mon visage alors que je tombais en arrière dans le renfoncement de la grotte. Des cris s'élevèrent autour de moi. « Péladine !» rugit Lodevin, et j'entendis le prince hurler d'un ton déchirant. « Non ! Non !» Pour ma part, je m'efforçais de protéger mes yeux. D'une main, j'essayais de repousser la Marguette tout en cherchant mon poignard de l'autre, mais la bête était trop bien crochée sur ma poitrine, et je ne parvins pas à la déloger. Je détournais le visage pendant ma chute, laissant involontairement ma gorge exposée, et l'animal profita de l'occasion. Je sentis ses crocs percer ma chair, et seule l'amulette de Gina l'empêcha de refermer ses mâchoires. Je réussis enfin à dégainer mon arme. J'ignorais si c'était avec la femme ou la Marguette que je me battais, mais je savais que la créature avait l'intention de me tuer. C'était important, certes, mais insuffisant pour empêcher ma main de trembler, et c'est avec maladresse que je frappais l'animal. Ma lame ripa d'abord sur ses côtes, puis sur sa colonne vertébrale, et ce n'est qu'à ma troisième tentative que je parvins à l'enfoncer jusqu'à la garde. La Marguette lâcha ma gorge pour pousser un hurlement d'agonie. Mais ses griffes restèrent fermement plantées dans ma poitrine. Ses pattes de derrière avaient réduit ma chemise en lambeaux et des zébrures de feu striaient mon ventre. Je décrochai le cadavre et voulus le jeter au loin. Mais Devoir l'arracha de mes mains.
« Chatte ! Ah ! Chatte ! »
s'écria-t-il, en serrant le corps sans vie contre lui comme si c'était celui de son enfant.
« Vous l'avez tué ! »
me lança-t-il d'un ton horrifié.
« Péladine !»
fit Lodevin, l'air éperdu.
« Péladine !»
Peut-être, s'il ne venait pas de perdre son animal de lien, le prince aurait-il eu assez de présence d'esprit pour jouer la comédie et feindre d'être possédé par la femme. Mais il n'en fit rien. Et avant que j'eusse fini de me redresser, je vis la botte de Lodevin s'abattre sur moi. Je roulais de côté, puis me relevais d'un bond avec une agilité digne du fou dans son jeune temps. J'avais laissé mon poignard dans le cadavre de la Marguette, mais mon épée ne m'avait pas quitté. Je la tirais du fourreau et me précipitais vers Lodevin.
« Fuyez !»
hurlai-je au prince.
« Sauvez-vous ! Elle a donné sa vie pour votre liberté ! Que ce ne soit pas en vain !»
Lodevin était plus grand que moi, et l'épée qu'il dégainait allait lui donner une allonge nettement supérieure à la mienne. Je saisis mon arme à deux mains et lui tranchai l'avant-bras avant que sa lame fût complètement sortie. Il s'écroula sur le dos avec un hurlement suraigu, en agrippant son moignon d'où le sang jaillissait par saccades, comme s'il levait une coupe en l'honneur de quelqu'un. La foule qui m'entourait resta un instant pétrifiée d'horreur, ce qui me laissa juste le temps de faire deux pas et de ramener Devoir derrière moi dans le renfoncement. Il n'avait pas fui. Et il était trop tard désormais. Peut-être était-il trop tard depuis le début, d'ailleurs. Il tomba à genoux, sa Marguette dans les bras. D'un geste violent, je fis décrire un grand arc de cercle à ma lame pour repousser nos adversaires.
« Debout !»
criai-je au prince.
« Prenez le poignard !»
D'un coup d'œil derrière moi, je le vis se relever, mais j'ignorais s'il avait retiré l'arme du cadavre de l'animal. Une question traversa mon esprit. Allait-il me la planter dans le dos ? Mais à cet instant, les pies se précipitèrent sur nous, certains au premier rang simplement propulsés en avant par les hommes derrière eux. Deux d'entre eux s'emparèrent de Lodevin, qui gisait au sol roulé en boule, et le tirèrent hors d'atteinte de mon épée. Un assaillant les contourna pour m'affronter,
Mais l'exiguïté de la grotte ne permettait qu'un massacre et non un combat dans les règles. Mon premier coup de taille éventra l'homme et pourfendit le visage d'un second. Cela ralentit l'attaque des autres, mais ils se ressaisirent et se regroupèrent pour me faire front. Ils se gênaient mutuellement, mais je dus reculer devant le nombre et je sentis alors le prince s'écarter derrière moi. La paroi rocheuse arrêta notre retraite. Devoir se jeta en avant pour poignarder un homme qui avait réussi à franchir ma garde. Puis il se tourna vers la droite pour se défendre lui-même. Il frappa un assaillant en poussant un cri de chat sauvage auquel son adversaire répondit par un hurlement de souffrance. Nous n'avions pas une chance de nous en tirer. Je le savais. Aussi, quand une flèche siffla près de mon oreille avant de se fracasser contre la muraille dans mon dos, je ne m'inquiétais pas outre mesure. Un sombre imbécile gaspillait son souffle à sonner du corps. Je ne lui prêtais pas plus d'attention qu'aux exclamations de douleur des hommes qui tombaient sous mes coups. L'un d'eux agonisait, et j'en achevais un autre, alors que je ramenais mon épée en arrière. Je fis décrire à mon arme un nouveau cercle, et stupéfait, je vis l'ennemi reculer. Je poussai un rugissement de triomphe, et j'avançai d'un pas pour faire à devoir un bouclier de mon corps. « Allons, venez donc mourir !» lançai-je au pis d'une voix grondante, en les invitant de la main à s'approcher. « Bas les armes !» cria une voix. Je fis tournoyer ma lame encore une fois, mais mes adversaires battaient en retraite en déposant leurs épées au sol. Ils ouvrirent un passage dans leur rang, et un jeune homme s'avança vers moi, un arc à la main. D'autres archers venaient derrière lui, prêts à tirer, mais sa flèche à lui visait le centre de ma poitrine. « Jetez votre arme !» me lança-t-il. C'était le garçon qui nous avait tendu une embuscade, celui qui avait blessé Laurier, puis s'était enfui avec elle. Comme je ne réagissais pas à l'injonction et restais haletant à me demander si je devais l'obliger à m'abattre, j'entendis derrière lui la grand-veneuse s'adresser à moi. Elle s'efforçait de prendre un ton apaisant, mais sa voix tremblait.
« Posez votre arme, Tom Blaireau. Vous êtes avec des amis. »
Quand on se bat, le monde, la vie se réduisent à la longe de son épée. Il me fallait du temps pour redevenir moi-même, et j'eus de la chance qu'on me laissât ce temps. Les yeux écarquillés, je regardais autour de moi en essayant de comprendre ce que je voyais. L'archer, Laurier, les gens qui se tenaient derrière elle, arcs tendus. Je ne connaissais pas leur visage. Plus âgés que les acolytes de Lodvin, ils étaient 8, 6 hommes et 2 femmes. La plupart étaient armés d'un arc, mais quelques-uns n'avaient qu'un long bâton à la main. Certaines flèches étaient pointées sur mes récents adversaires, qui avaient lâché leurs épées, acculés comme moi. Lodvin se roulait au sol, sa main valide crispée autour de son moignon. Je n'avais qu'à faire 2 pas, et je pourrais enfin l'achever. À cet instant, je sentis la main de devoir se poser sur mon bras, et appuyer fermement, pour m'obliger à le baisser. « Bas les armes, Tom !» dit-il d'un ton calme. Et je crus entendre la voix apaisante de vérité. Toute force m'abandonna, et la pointe de mon épée tomba sur le sol. À chacune de mes respirations, c'était un flot de souffrance qui passait par ma gorge desséchée. « Lâchez votre épée !» ordonna l'archer. Je fis un pas dans sa direction, et je perçus le son d'un arc qui se tendait. Mon cœur se remit à battre furieusement, et je calculai la distance qu'il me fallait couvrir.
« Attendez !»
intervint soudain Sire Doré.
« Laissez-lui un moment pour se reprendre. Il est possédé par la fureur du combat, et il n'est pas dans son état normal. »
Il se fraya un chemin parmi les archers, et se planta entre eux et moi avec un mépris superbe pour les flèches qui visaient à présent son dos. Il n'avait pas eu un regard pour l'épi, qui s'était écarté à contre-cœur devant lui.
« Du calme, Tom. »
Il s'adressait à moi comme à un cheval affolé.
« C'est fini. Tout est terminé. »
Il s'approcha encore et posa la main sur mon bras, et j'entendis un murmure stupéfait parcourir la foule. Comme s'il venait d'accomplir un geste d'une bravoure extraordinaire. À son contact, je sentis l'épée glisser de mes doigts. Près de moi, Devoir se laissa tomber à genoux. Je baissai les yeux vers lui. Ses mains et le devant de sa chemise étaient couverts de sang. mais ce n'était pas le sien, apparemment. Il lâcha mon poignard, prit dans ses bras le corps sans vie de la Marguette et le serra sur son cœur comme un enfant, en se balançant d'avant en arrière et en répétant en une litanie douloureuse
« Ma chatte, mon ami !»
Une expression d'indicible angoisse se peignit sur les traits de Cire Dorée.
« Mon prince !» fit-il la gorge nouée.
Il se pencha pour toucher le garçon, mais je le saisis par le bras. « Laissez-le, » dis-je à mi-voix. « Donnez-lui le temps de pleurer sa compagne. » À cet instant, traversant la foule d'une démarche raide et mal assurée, arriva mon loup. Quand il s'arrêta près de moi, je tombai à genoux à mon tour. Après cela, on ne prêta plus guère attention à Tom Blaireau et son compagnon. Les nouveaux venus nous laissèrent serrer l'un contre l'autre pour refouler les acolytes de l'Audevin loin du prince, ce qui nous convenait parfaitement. Nous avions besoin d'intimité, et cela nous permit d'observer ce qui nous entourait. Notre intérêt se porta principalement sur le prince. Le jeune archer, dénommé Fratzer, s'était fait accompagner d'une vieille guérisseuse. Elle posa son arc et s'approcha du prince. Elle s'assit près de lui, en se gardant bien de le toucher, et se contenta de le regarder pleurer sa Marguette. Œil de Nuit et moi partageâmes sa veille de l'autre côté du garçon. Nos regards se croisèrent une fois, et je lus dans le sien la fatigue qu'induisent la vieillesse et l'excès de tristesse. Je crains qu'on pût en lire autant dans le mien. On tira au dehors les cadavres des pies que j'avais tués, et on les attacha sur leurs chevaux. J'entendis des claquements de sabots qui s'éloignaient, et je compris, trop tard, qu'on avait laissé fuir les survivants. Je serrai les dents. Je n'aurais pu l'empêcher, de toute façon. L'Audevin était parti le dernier, dépouillé de son statut de chef, chancelant sur la selle de son cheval de bataille, à la bouche écumante, maintenu en place par un jeune cavalier en croupe. Plus que tout, le voir s'en aller libre m'avait inquiété. Non seulement je lui avais repris le prince, mais j'avais abattu l'animal qui renfermait l'âme de sa sœur, et je l'avais lui-même mutilé. J'avais déjà bien assez d'ennemis sans lui, mais la situation m'avait échappé. Il était parti libre, et je formais le vœu de ne pas avoir à le regretter un jour. La guérisseuse laissa le prince pleurer sa compagne jusqu'au moment où le soleil effleura l'horizon. Alors elle me regarda. « Enlevez-lui le corps de la Marguette, » me dit-elle à mi-voix. Je n'en avais nulle envie, mais j'obéis. Le persuader de lâcher le cadavre déjà froid de l'animal ne fut pas tâche facile, et je choisis mes mots avec soin. En cette occasion, mon ordre d'art ne devait pas intervenir pour le forcer à une renonciation à laquelle il n'aurait pas été prêt. Quand il me laissa enfin prendre le brumier, je fus étonné du peu de poids de l'animal. D'ordinaire, une bête morte paraît plus lourde que de son vivant, mais à présent que la vie l'avait quittée, la petite Marguette apparaissait clairement dans un état pitoyable. Comme si elle était rongée de vermine, avait dit Œil de Nuit, et il n'était pas loin du compte, en effet. La petite créature n'avait plus que la peau sur les os. Sa fourrure jadis luisante de santé était sèche, ses poils cassants, et son épine dorsale bosselait son dos. Les puces abandonnaient son cadavre en nombre, beaucoup trop élevé pour un animal en bonne santé. Comme je le remettais à la guérisseuse, je vis une expression de colère passer sur le visage de la vieille femme. J'ignore si Devoir perçut ce qu'elle murmura, mais je l'entendis nettement. Elle ne lui permettait même pas de s'occuper d'elle-même comme le fait un vrai Marguet. Elle la possédait trop complètement et se voulait une femme dans la peau d'un animal. Péladine avait imposé ses manières d'humaine au brumier. Elle lui avait refusé les longues siestes, les repas à satiété et les séances de toilette qui sont le droit naturel d'un petit félin en bonne forme. De même, le jeu et la chasse lui avaient été interdits. C'était la façon des pies d'employer le vif à leur seul profit, et elle me révoltait. La guérisseuse emporta le cadavre de la Marguette hors de la grotte, et Devoir et moi la suivîmes, Œil de Nuit entre nous. Un tumulus de pierres à demi bâties attendait la petite dépouille, et tous les compagnons de Fratzer sortirent pour assister à l'enterrement. Ils avaient le regard triste, mais aussi empreint de respect. Ce fut la guérisseuse qui prononça les mots d'adieu, car devoir étouffait de chagrin. Elle s'en va sans toi. Elle est morte pour vous deux, pour vous libérer l'un et l'autre. Garde en toi les traces de Marguette qu'elle a laissées sur ton âme, et laisse partir avec elle l'humanité que vous avez partagée. Vous êtes désormais séparés. Le prince vacilla quand on déposa les dernières pierres et que disparut sous elle le rictus d'agonie de la petite créature. Je posai ma main sur son épaule pour le retenir, mais il l'écarta d'un haussement brusque, comme si j'allais le soulier. Je ne lui en voulais pas. La Marguette m'avait ordonné de la tuer. Elle avait tout fait pour m'y obliger, mais je n'espérais pas qu'il me pardonnerait de lui avoir obéi. À peine l'inhumation achevée, la guérisseuse du lignage lui tendit une potion. « Votre part de mort, » dit-elle, et il l'avala d'une seule lampée avant que Sire Doré ou moi-même puissions intervenir. La vieille femme me fit alors signe de le ramener dans la grotte. Il s'allongea là où avait péri sa Marguette et sa peine éclata de nouveau. J'ignore ce que contenait le breuvage, mais les sanglots déchirants du garçon se turent peu à peu, remplacés par la respiration lourde du sommeil profond. Pourtant, son immobilité et son inertie n'évoquaient pas le repos. « Une petite mort », m'avait confié la guérisseuse en me jetant dans le plus grand effroi. « Je lui procure une petite mort, une période de néant. Il a péri lui aussi, comprenez-vous ? Quand la Marguette s'est fait tuer, il a besoin de ce temps de vide et de mort. Ne cherchez pas à l'en priver. » De fait, le produit le plongea dans un assoupissement proche du sommeil éternel. La vieille femme l'installa sur une paillasse et le disposa comme s'il s'agissait d'un cadavre. Tout en travaillant, elle marmonnait d'un ton acerbe. « Quelle meurtrissure au cou et dans le dos !» Comment a-t-on pu ainsi rouer de coups un simple gosse ? La honte m'interdit de lui révéler que j'étais l'auteur de ces marques. Bouche close, je la regardais tirer soigneusement une couverture sur le prince en secouant la tête d'un air désolé. Soudain, elle se tourna vers moi et me fit signe de m'approcher. « Faites aussi venir votre loup. J'ai le temps de m'occuper de vous, maintenant que j'ai soigné le petit. » Ce dont il souffrait était beaucoup plus grave qu'une plaie ouverte. Elle nettoya nos blessures à l'eau tiède, puis y appliqua un onguent épais. Œil de nuit se laissa faire. Il s'était si bien fermé à la douleur que c'est à peine si je percevais sa présence. Quand elle se mit à l'ouvrage sur mes entailles au ventre et à la poitrine, elle me tint des propos sévères, et je portai au crédit de l'amulette de Gina qu'elle daigna seulement adresser la parole à un renégat comme moi. Pourtant, son seul commentaire sur le collier fut qu'il m'avait sans doute sauvé la vie. « La Marguette a essayé de vous tuer, c'est évident, mais je suis convaincu que ce n'était pas de sa propre volonté. Ce n'était pas non plus de la faute du petit. Regardez-le, selon nos critères, c'est encore un enfant beaucoup trop jeune pour se lier. » Elle me sermonnait comme si j'étais responsable de ce qui était arrivé au prince. « Il ignore tout de notre enseignement. » Et voyez le mal que cela lui a fait. Je ne vous mentirai pas. Il risque d'en mourir, ou bien d'être victime d'une folie mélancolique qui le tourmentera jusqu'à la fin de ses jours. D'un petit coup sec, elle resserra le bandage qui me prenait le ventre. Il faut que quelqu'un lui apprenne la tradition du lignage, les bonnes façons d'employer sa magie. Elle me jeta un regard noir et scrutateur, mais je me tus et renfilai ma chemise en haillons. La vieille femme s'éloigna de moi avec un grognement de mépris. Œil de nuit leva péniblement la tête et la posa sur mon genou, qu'il macula d'onguents et de sang coagulé. Il regarda le garçon endormi.
« Va-tu lui donner cet enseignement ?»
Ça m'étonnerait qu'il ait envie d'apprendre quoi que ce soit de ma part. J'ai tué sa Marguette.
« Qui, alors ?»
Je laissai la question en suspens et m'allongeai dans l'obscurité près du loup, entre l'héritier des loins voyants et le monde extérieur. Non loin de nous, au milieu de la grotte, Fradecer tenait conseil avec Sire Doré. Laurier était assis entre eux. La guérisseuse s'était jointe à eux, ainsi que deux aînés qui s'étaient installés près du feu. Je les observais les yeux mi-clos. Autour d'eux, les autres membres du lignage vaquaient tranquillement aux corvées ordinaires d'un bivouac à la nuit tombée. Derrière Fras de Serre, plusieurs hommes se reposaient sur leurs couvertures, apparemment satisfaits de laisser le jeune vifier parler en leur nom. Pourtant, j'avais le sentiment que c'était peut-être eux qui détenaient le vrai pouvoir dans le groupe. L'un d'eux fumait une pipe à long tuyau, tandis qu'un autre, barbu, aiguisait soigneusement son poignard. Le bruit faisait un contrepoint sourd et monotone à la conversation. Malgré leur pose détendue, je sentais la vive attention qu'ils prêtaient aux propos échangés. Fras de Serre s'exprimait peut-être en leur nom, mais ils tendaient l'oreille pour s'assurer que ces paroles répondaient à leurs désirs. Ce n'était pas à Tom Blaireau que ces hommes et femmes du lignage s'adressaient, mais à Sire Doré. Tom Blaireau n'était qu'un traître à sa race, un valet de la couronne. Il était bien plus méprisable que Laurier, car, bien qu'elle fût née dans une famille du lignage, comme chacun le savait, le talent n'existait pas chez elle, et il était normal qu'elle dût se débrouiller, selon ses maigres moyens pour faire son chemin dans le monde, à demi insensible à la vie qui fleurissait, bourdonnait et brûlait autour d'elle. Qu'elle fût devenue grand-veneuse de la reine n'avait rien de honteux, et je percevais même une certaine fierté chez ceux du lignage à l'idée que quelqu'un d'aussi diminué eût atteint une position aussi élevée. Moi, en revanche, j'avais choisi la trahison en toute conscience, et l'on faisait un détour quand on passait près de moi. Un homme apporta des quartiers de viande sur des broches et les mit à cuire. L'odeur qui parvint à mes narines éveilla un vague appétit en moi. « Tu as faim ?» demandai-je à Œil de Nuit. « Trop fatigué pour manger !» répondit-il. Je partageais son avis. D'autant plus que j'éprouvais une grande réticence à demander l'aumône à des gens qui ne voulaient pas de moi. Nous restâmes donc couchés dans notre coin obscur, sans que nul nous accordât le moindre intérêt. Je m'efforçais de ne pas en vouloir au fou d'avoir si peu parlé avec moi. Sire Doré ne pouvait s'inquiéter des blessures d'un domestique, pas davantage que Tom Blaireau ne pouvait manifester de soucis excessifs pour la santé de son maître. Nous devions tenir nos rôles respectifs. Je fis donc semblant de dormir, mais j'observais les parlementaires entre mes paupières mi-closes et tendis l'oreille à leurs propos. L'entretien resta d'abord général, et je n'en compris le sujet qu'en grappillant des détails au détour des phrases et en les assemblant à l'aide de conjectures. Fras de Serre donnait à Laurier des nouvelles d'un oncle commun, des nouvelles qui remontaient à plusieurs années déjà, où il était question de fils qui avait grandi et s'était marié. Le jeune archer et la grand-veneuse étaient donc cousins, et ils s'étaient perdus de vue depuis longtemps. Oui, cela se tenait. Elle avait déclaré avoir des parents dans la région et m'avait quasiment avoué qu'il possédait le vif. Pour le reste des explications, Fras de Serre s'adressa à Sire Doré. Arnaud et lui ne s'étaient joints au Pays de l'Audevin que depuis le début de l'été, furieux et révoltés des traitements que subissaient les membres du lignage. Quand l'Audevin avait perdu sa sœur, il s'était consacré à la cause de ses semblables, dont il n'avait pas tardé à prendre la tête. Il n'avait plus rien à perdre que sa propre vie, leur avait-il dit, et pour changer le monde, il fallait être prêt à se sacrifier. Il était temps que le lignage impose la paix à laquelle il avait droit. Il avait insufflé force et intrépidité dans le cœur de ces jeunes vifiers qui se dressaient sans peur pour s'emparer de ce que leurs parents craignaient de demander. Ils allaient bouleverser la société. L'heure était venue de vivre à nouveau unis dans les communautés du lignage, de permettre à leurs enfants d'affirmer leur magie au grand jour. L'heure du changement avait sonné. À l'entendre, cela paraissait logique et très noble. Certes, il faudrait recourir à des mesures extrêmes, mais nous ne poursuivions pas d'autre but qu'obtenir ce qui nous revenait de droit, vivre en paix et accepter de tous, rien d'autre. Est-ce trop exigé ?
L'objectif est noble, murmura Sire Doré, qui l'avait écouté attentivement. Mais les moyens me paraissent...
Il laissa sa phrase en suspens, et ses auditeurs libres de l'achever à leur gré. Répugnant, cruel, immoraux. L'absence même de description permettait de les contempler dans toute leur bassesse. Après une courte pause, Fras de Serre déclara, sur la défensive,
« J'ignorais que Péladine possédait la marguette.
Un silence dubitatif accueillit ces mots, et le jeune homme parcourut ses aînés d'un regard presque courroucé.
« Vous vous dites que j'aurais dû le sentir, je le sais, mais je ne me suis aperçu de rien. L'enseignement que j'ai reçu n'était peut-être pas de première qualité, ou bien elle savait mieux se dissimuler que vous ne l'imaginez. En tout cas, je ne savais rien, je le jure. Arnaud et moi avons porté la marguette au Brisinga. Il savait qu'il s'agissait d'un présent que le niage faisait au prince de voir pour l'influencer en notre faveur. Mais j'en fais le serment par mon sang. Il n'était au courant de rien d'autre, et moi non plus. Autrement, j'aurais refusé de participer à cette action. »
La vieille guérisseuse secoua la tête. « C'est ce qu'on dit souvent, une fois que le mal est fait, » affirma-t-elle durement. « Mais un détail m'intrigue. Tu sais qu'un brumier doit être pris tout petit à la tanière et qu'ensuite, il ne chasse que pour celui qui l'a attrapé. Ça ne t'a pas mis la puce à l'oreille ?»
Fradecerre rougit violemment, mais insista.
« J'ignorais que Péladine possédait la marguette. Oui, je savais qu'elle avait été liée avec elle, mais elle était morte depuis. Je croyais la marguette seule et je mettais son comportement étrange sur le compte de son deuil. Et puis, que faire d'autre d'elle? On ne pouvait pas la relâcher dans les collines, elle n'avait jamais connu la vie sauvage. Je l'ai donc amenée chez les Brisinga comme présent à offrir au prince. Je pensais possible... »
Ici, il se trahit par une cassure dans la voix.
« Qu'elle veuille se lier à nouveau ? Elle en avait le droit, si tel était son choix. Et quand le prince est venu nous rejoindre, j'ai fait confiance à ce que nous a dit Lodevin. Qu'il était là de son plein gré pour apprendre nos enseignements. Croyez-vous que j'aurais prêté la main à une telle entreprise autrement ? Croyez-vous qu'Arnaud aurait donné sa vie ?»
Certains, je pense, nourrissaient les mêmes doutes que moi sur la véracité de son histoire. Mais le temps manquait pour porter des accusations. Nul ne dit mot, et Fradecerre poursuivit son récit.
Arnaud et moi escortions le prince avec Lodevin et les autres pies. Il était prévu de l'emmener à Seffrebois, où, selon Lodevin, il vivrait parmi nous et apprendrait nos traditions. Mais quand Arnaud s'est fait capturer à Alerbie, devant l'auberge du prince Pie, nous avons compris que nos vies étaient en danger et qu'il fallait fuir. De voir abandonner mon frère m'a déchiré le cœur. Mais chacun de nous devait être prêt à se sacrifier pour les autres. Nous en avions fait serment. J'étais ivre de rage quand nous avons tendu l'embuscade pour les lâches qui nous pourchassaient. Et je n'ai de remords pour la mort d'aucun de ceux qui sont tombés là. Arnaud était mon frère. Nous avons ensuite repris notre route. Et quand nous avons trouvé un nouvel emplacement favorable, Lodevin m'a laissé pour surveiller la piste. « Arrête-les, m'a-t-il dit. Et... si ça doit te coûter la vie, qu'il en soit ainsi. » Et j'étais d'accord avec lui.
Il s'interrompit, et ses yeux se portèrent sur Laurier.
« Je ne vous ai pas reconnu, cousine, je vous le jure, même pas comme un flèche s'est fichée dans votre épaule. Je n'avais qu'une idée en tête, abattre tous ceux qui avaient participé à la mort d'Arnaud. C'est seulement quand Blaireau m'a fait tomber de l'arbre et que je vous ai vraiment regardé que j'ai compris ce que j'avais fait. J'avais fait couler encore davantage mon propre sang. »
Il avala sa salive et se tut soudain.
« Je vous pardonne. »
La voix de Laurier était basse, mais parfaitement audible. La jeune femme parcourut du regard les membres assemblés du lignage.
« Soyez-en tous témoins. Fradecerre m'a blessé en toute ignorance, et je lui pardonne. Il n'existe aucune dette de vengeance ni de réparation entre nous. À l'époque, je ne savais rien des dessous de l'affaire, et j'ai cru que parce que j'étais dépourvu de la magie que vous possédiez, vous vous considériez en droit de me tuer. »
Un éclat de rire rauque lui échappa.
« C'est seulement, en voyant Blaireau vous brutaliser, que je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'importance. »
Elle se tourna tout à coup vers Fradecerre. L'air honteux, il se força néanmoins à soutenir son regard.
« Vous êtes mon cousin, vous êtes de mon sang, » déclara-t-elle d'une voix douce. « Ce qui nous rapproche l'emporte largement sur ce qui nous différencie. J'ai eu peur qu'il ne vous tue à vouloir vous faire parler, et malgré ce que vous aviez fait, en dépit même de ma fidélité à la reine, je devais l'empêcher. Aussi, la nuit venue, j'ai profité de ce que Sire Doré et son serviteur dormaient pour prendre la fuite avec mon cousin.
Elle regarda le fou. Vous m'aviez dit plus tôt que je devais vous faire confiance quand vous me teniez à l'écart de vos conciliabules avec Blaireau. J'ai estimé être en droit d'en exiger autant de votre part. Et je vous ai donc laissé dormir pendant que j'agissais au mieux, selon mes convictions, pour sauver mon prince.
Sire Doré baissa la tête un moment, puis il la hocha, solennellement. Fradecerf se passa une main sur les yeux et déclara comme s'il n'avait pas entendu ce que la jeune femme avait dit au gentilhomme.
Vous faites erreur, Laurier. J'ai une dette envers vous, et je ne l'oublierai jamais. Quand nous étions enfants, nous ne vous manifestions jamais la moindre gentillesse quand vous veniez voir votre famille maternelle. Nous vous rejetions toujours. Votre propre frère vous surnommait la taupe parce que vous avanciez en aveugle dans un monde noir et froid, alors que nous courions librement, les yeux grands ouverts. Et puis je vous ai tiré dessus. Je n'avais aucune aide à espérer de votre part, et pourtant, vous m'avez sauvé la vie.
Elle répondit d'un ton contraint.
C'est pour Arnaud que je l'ai fait. Il était aussi aveugle et sourd que moi à cette magie familiale qui nous excluait, et lui seul acceptait de jouer avec moi lors de mes visites. Mais il vous a toujours aimé, et à la fin, il a jugé que votre sauvegarde valait qu'il donne sa vie pour elle.
La grand-veneuse secoua la tête.
Je ne voulais pas qu'il soit mort pour rien.
Ensemble, Fradecerf et elle avaient discrètement quitté l'abri sous roche où nous dormions le fou et moi. Elle avait convaincu son cousin que l'enlèvement du prince n'entraînerait qu'un durcissement des persécutions contre le lignage, et elle lui avait demandé de trouver des doyens dotés d'une autorité suffisante pour obliger Lodvin à rendre son captif. Elle lui avait rappelé que la reine Kétriken s'était déjà élevée contre ceux qui massacraient les Vifiers. Tenait-il à retourner contre les siens, la première souveraine à prendre leur parti depuis des générations? Laurier avait réussi à le persuader que, Dépit s'étant emparé du prince, c'était le lignage qui devait le rendre à sa mère. C'était la seule réparation possible. Elle s'adressa au seigneur Doré.
Nous sommes revenus vous aider le plus vite possible, mais, et ce n'est pas leur faute, les gens du lignage vivent éloignés les uns des autres et se montrent très discrets. Nous avons chevauché de ferme en chaumière pour réunir des personnages influents prêts à essayer de ramener Lodvin à la raison. Ça a été difficile, car cela va à l'encontre des traditions du lignage. Chacun est son propre maître et doit savoir se dominer seul. Chaque famille a ses propres règles de conduite, et bien peu ont accepté de faire front à Lodvin pour exiger qu'il revienne dans le droit chemin.
Son regard parcourut les visages qui l'entouraient.
À vous qui êtes venus, j'exprime mes plus profonds remerciements. Et si vous me le permettez, j'aimerais donner vos noms à Sa Majesté, afin qu'elle sache à qui va sa dette.
« Et où envoyer la corde et l'épée ?»
fit la guérisseuse à mi-voix.
« L'époque où nous vivons n'est pas encore assez clémente pour révéler nos noms, Laurier. Nous connaissons le vôtre. Si nous avons besoin de l'attention de la reine, nous la demanderons par votre entremise. »
Les gens que Fradecerf et la jeune femme avaient réunis appartenaient au lignage. Mais il ne se donnait pas l'appellation de fidèle au prince Pi, groupuscule dont il ne partageait pas les idées. Il les adhérait aux enseignements traditionnels, comme l'expliqua avec ferveur le jeune archer au seigneur Doré, en se déclarant honteux d'avoir compté parmi les partisans de Lodvin. Il assurait que c'était la colère qui l'y avait poussé, non le désir de dominer les animaux, ni de les utiliser à ses propres fins comme le faisaient les Pis. Il avait simplement vu trop de ses semblables pendus et démembrés au cours des 2 années précédentes. Cela aurait suffi à faire perdre la tête à n'importe qui, mais il s'était aperçu de son erreur à temps, grâce à Eda et grâce à Laurier aussi. Il espérait que sa cousine lui pardonnerait la cruauté de son enfance. La conversation clapotait contre moi comme un ressac. J'essayais de rester éveillé et de comprendre les propos échangés, mais nous étions trop fatigués, le loup et moi. À une nuit était étendu à côté de moi, et j'étais incapable de distinguer la limite entre sa douleur et la mienne. Cela m'était égal. Même si nous n'avions plus pu partager que la souffrance, c'est avec bonheur que j'aurais accepté la sienne. Nous étions toujours ensemble. Le prince n'avait pas cette chance. Je tournai la tête vers lui. Il continuait à dormir, et il respirait à grands soupirs, comme si le chagrin le poursuivait jusque dans ses rêves. Je me sentais vaciller moi-même au bord de l'assoupissement, insidieusement attiré par le profond sommeil du loup. « Dormir est le meilleur des remèdes », disait toujours Burick, et je formais le vœu qu'il eut raison. Comme des notes de musique indistinctes, je percevais les rêves de chasse d'œil de nuit, mais je m'interdis de me laisser aller à mon envie de le rejoindre. Le fou avait peut-être confiance en Laurier, Frat de Serre et leurs compagnons, mais pas moi, et je me promis de monter la garde. Il fallait veiller au grain. Dans mon sommeil fin, je trouvai une position qui me permettait de les observer. Notant au passage que Laurier, assise entre Sire Doré et Frat de Serre, se tenait plus près du gentilhomme que de son cousin. Je constatai que les échanges avaient pris une tournure plus proche de la négociation que de l'explication, et je prêtai une oreille attentive aux propos raisonnables et mesurés du seigneur Doré.
« Je crains que vous ne saisissiez pas bien la position de la reine Quétricaine. Je ne saurais avoir la présomption de parler à sa place, naturellement. Je ne suis que l'hôte de la cour des loin-voyants, un nouveau venu et un étranger de surcroît. » Cependant, ces restrictions mêmes me donnent peut-être le recul nécessaire pour voir ce qui vous aveugle par trop d'évidence. La couronne et le nom des loin-voyants n'empêcheront pas qu'on persécute le prince de Voir comme vivier, et ils agiront même plutôt comme de l'huile sur le feu. Son immolation n'en sera que plus certaine. Vous reconnaissez que la reine Quétricaine a plus fait que tous ses prédécesseurs réunis pour mettre hors la loi les cruautés dont sont victimes vos semblables. Mais si elle révèle que son fils a le vif, non seulement elle et Devoir risquent d'être jetés à bas du trône, mais on soupçonnera ses efforts pour défendre votre peuple de ne viser qu'à protéger sa propre chair.
La reine Quétricaine a interdit qu'on nous mette à mort au simple motif de pratique du vif. C'est exact, répondit Frat de Serre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a cessé de nous tuer. La réalité est là. Ceux qui cherchent notre perte inventent de toutes pièces des torts et des préjudices que nous leur aurions causés. L'un profère un mensonge, l'autre jure qu'il dit la vérité, et un père ou une fille du lignage se fait pendre, démembrer et brûler. Si la reine voit peser sur son fils la même menace que ma mère sur le sien, peut-être prendra-t-elle des mesures plus énergiques en notre faveur ?
Derrière lui, un homme hocha gravement la tête. Sire Doré écarta les mains d'un geste plein de grâce.
« Je ferai mon possible, je vous l'assure. La reine entendra le récit complet de tous vos efforts pour sauver la vie de son fils. Laurier est plus que la grand-veneuse de sa majesté. C'est son amie et sa confidente. Et elle lui expliquera les risques que vous avez courus pour récupérer Devoir. Je ne puis davantage. Je ne saurais faire de promesses à la place de la reine Quétricaine. »
L'homme qui avait hoché la tête se pencha et, du bout des doigts, poussa légèrement Frat de Serre à l'épaule pour lui signifier de poursuivre. Le jeune archer parut un instant mal à l'aise, puis il s'éclaircit la gorge.
Nous observerons la reine et surveillerons attentivement ce qu'elle dira à ses nobles. Mieux que personne, nous savons le péril qui pèserait sur le prince s'il venait à se savoir que le sang du lignage coule dans ses veines, car c'est celui qu'affronte quotidiennement nos frères et nos sœurs. Nous voulons qu'il cesse. Si la reine juge à propos d'étendre la main et de protéger les nôtres des persécutions, le lignage conservera le secret de son fils. Mais si elle se désintéresse de notre situation, si elle reste indifférente au massacre dont nous sommes victimes, eh bien, je vous ai compris,
fit vivement Sire Doré. Son ton était froid, mais pas hostile.
Dans les circonstances présentes, nous ne pouvons pas vous en demander davantage, je crois. Vous nous avez déjà rendu l'héritier des loin-voyants, et cela l'inclinera à se pencher avec bienveillance sur votre situation.
C'est bien ce que nous espérons, répondit gravement Frat de Serre,
et les hommes assis derrière lui hochèrent la tête avec solennité. Le sommeil m'aspirait irrésistiblement. Œil de Nuit était déjà profondément endormi. Sa fourrure était collante d'onguents, tout comme ma poitrine et mon ventre. Nous avions mal à peu près partout, mais j'appuyais mon front contre sa nuque et passais doucement un bras sur lui. Ses poils étaient gluants sous ma peau. Les propos échangés autour du feu me devinrent inaudibles et perdirent toute signification alors que je m'ouvrais à lui. Ma conscience franchit la barrière rouge de douleur qui l'enfermait et je retrouvais la chaleur et l'humour de son âme.
Les Marguets, une engeance encore pire que les porcs qui piquent, bien pire.
Mais le garçon aimait la Marguette.
La Marguette aimait le garçon, le pauvre.
Pauvre Marguette. La femme était égoïste.
Plus qu'égoïste, monstrueuse. Sa propre vie ne lui avait pas suffi.
C'était une petite Marguette courageuse. Elle a tenu bon et elle a entraîné la femme avec elle.
Oui, une vaillante Marguette.
Un silence.
Crois-tu qu'un jour viendra où ceux qui ont le vif pourront affirmer ouvertement leur magie?
Je n'en sais rien. Ce serait un bien, du moins, je crois. Songe au tour qu'ont pris nos vies, à cause du secret qui l'entoure et de sa mauvaise réputation. Mais elles ont été bonnes quand même, nos vies, la tienne comme la mienne.
Oui. Dormons à présent.
Dormons. J'aurais été bien incapable de dire quelles pensées étaient les siennes et lesquelles m'appartenaient, et ce n'était pas nécessaire. Je me laissais sombrer dans son sommeil et nous rêvâmes bien ensemble. C'est peut-être le malheur de devoir qui nous poussa à songer à ce que nous avions partagé et à ce que nous possédions toujours. Il y eut d'abord un louveteau en train de chasser des souris sous le plancher pourri d'un vieux bâtiment, puis un homme et un loup terrassant ensemble un grand sanglier. Nous nous vîmes en train de nous tendre mutuellement des embuscades dans une neige profonde, puis de nous bagarrer à grand renfort de cris et de jappements. Nous sentîmes la chaleur du sang d'un cerf dans notre bouche et nous nous disputâmes son foie onctueux et succulent. Et puis, nous laissâmes ces vieux souvenirs derrière nous pour nous enfoncer dans un sommeil et un bien-être parfait. C'est dans ce profond assoupissement que la guérison commence. Il se réveilla le premier. Je faillis ouvrir les yeux quand il se leva, s'ébroua prudemment, puis s'étira plus hardiment. Son flair aiguisé m'apprit que le jour approchait. Le soleil pâle effleurait à peine l'herbe humide de rosée et revivifiait les odeurs de la terre. Le gibier devait sortir du sommeil lui aussi. La chasse serait bonne.
« Je suis éreinté, » fis-je d'un ton plaintif. « Pourquoi te lèves-tu ?
Dormons encore un peu, nous chasserons plus tard. »
« Tu es fatigué ? Moi, je suis tellement épuisé que le sommeil ne m'apporte plus de repos. Seule la chasse peut me revigorer. »
Il me donna un coup de museau dans la joue. Sa truffe était humide et froide.
« Tu ne viens pas. J'aurais parié que tu voudrais m'accompagner. »
« J'ai envie de t'accompagner, mais pas tout de suite. Laisse-moi un peu de temps. »
« Très bien, petit frère. Un peu de temps. Suis-moi quand tu te décideras. »
Mon esprit partit avec lui, comme bien souvent. Nous quittâmes la grotte à l'atmosphère alourdie de la puanteur des hommes et passâmes devant le tumulus funéraire de la Marguette. Nous sentîmes l'odeur de sa mort et celle musquée d'un renard attiré par son effluve, mais repoussé par la fumée du feu de camp. Nous nous éloignâmes rapidement du bivouac. Et Œil de Nuit choisit de gravir à l'oblique le flanc de la colline plutôt que de descendre dans le vallon boisé. Une dernière étoile s'éteignait dans le ciel d'un bleu profond. La nuit avait été plus froide que je m'en étais rendu compte, et les pointes des herbes étaient couvertes d'un givre qui disparaissait dans une petite bouffée de vapeur quand le soleil les touchait. L'air demeurait vif, et chaque fragrance était aussi nette et claire que le tintement d'une lame neuve. Grâce à l'odorat du loup, aucune ne m'échappait, et je les reconnaissais toutes. Le monde nous appartenait.
Le temps du changement,
dis-je à Œil de Nuit.
En effet, il est temps de changer, changeur.
Des souris bien en chair récoltaient des graines sur les graminées, mais nous les laissâmes tranquilles. Au sommet de la colline, nous fîmes une courte halte. Puis nous suivîmes la crête en nous imprégnant du parfum du matin et en savourant l'orée du jour qui se levait. Il devait y avoir des chevreuils dans le fond des combes où couraient des rues, des bêtes en bonne santé, solides et bien nourries, véritable défi pour une meute, et encore plus pour un loup isolé. Il aurait besoin de moi pour les chasser, et il allait donc devoir revenir plus tard en ma compagnie. Mais il s'arrêta en haut de l'éminence, les poils agités par la brise matinale, les oreilles dressées, et il regarda le vallon où l'attendait le gibier.
« Bonne chasse. J'y vais, mon frère. »
Il s'exprimait d'un ton résolu.
« Tout seul ? Mais tu ne peux pas tuer un chevreuil tout seul. »
Je poussai un soupir résigné. « Bon, attends-moi, je me lève et je te rejoins. »
« T'attendre ? Sûrement pas. J'ai toujours dû te devancer pour te montrer le chemin. »
Et vif comme la pensée, il m'échappa, dévalant la pente comme l'ombre d'un nuage quand le vent souffle. Avec l'éloignement, mon lien avec lui s'effilocha, se rompit et resta en suspens comme du duvet de pissenlit dans la brise. Naguère, secret et intime, il s'ouvrit, s'épanouit comme si le loup avait invité toutes les créatures du monde douées du vif à partager notre union. Toute la trame de vie du versant grandit tout à coup dans mon cœur, et chacun de ses brins était relié et entretissé avec tous les autres. C'était trop magnifique pour que je garde cette sensation pour moi. Il fallait que je rattrape le loup. Je devais partager avec lui une matinée aussi merveilleuse.
« Attends-moi »
criai-je, et mon propre cri me tira du sommeil. Non loin de là, le fou se redressa, les cheveux en bataille. Je clignai les paupières, ma bouche était pleine d'onguents et de poils du loup, et mes doigts étaient enfoncés dans sa fourrure. Je le serrai contre moi, et, sous mon étreinte, ses poumons laissèrent échapper le dernier soupir qui y restait prisonnier. À Œil de Nuit était mort. Une pluie glacée tombait en cataracte devant l'entrée de la grotte.